et merci d'être venus nombreux à l'appel de Philomania. Alors, je vous rassure, je vais être très brève. Juste, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Philomania. Nous organisons une par une conférence comme celle de ce soir. Il y en aura une autre le 3 juin avec Mazarine Pinchot qui vous parlera de la philosophie du manque, personne. Et puis nous organisons un café philo chaque mois, généralement le deuxième mardi de chaque mois, sauf quand le deuxième mardi tombe pendant les vacances scolaires, puisque nous n'avons plus accès à notre salle de lycée. Donc n'hésitez pas à prendre des petits flyers pour avoir le programme, ou surtout à vous rendre sur notre site internet, philomania.fr, où vous pourrez en plus retrouver des podcasts, des cafés philo et des conférences quand le conférencier nous autorise à mettre l'enregistrement en ligne. Alors, c'est vraiment pour Philomania une très 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 grande joie d'accueillir Christian Baratelou ce soir pour nous parler de géo-histoire. Alors, Christian Baratelou, il est professeur émérite de géographie historique à l'Université de Paris 6. C'est également un écrivain, un essayiste, et vous pouvez trouver son livre Géo-histoire au fond de la salle, de côté. Mais je vous avoue qu'à midi, quand je lui ai demandé comment il souhaitait que je le présente, il m'a fait une réponse que j'ai trouvée absolument magnifique. Il m'a dit comme un trait d'union. Alors, bien sûr, un trait d'union entre l'histoire et la géographie, qui sont enseignés très séparément, mais pas que. C'est aussi un trait d'union entre la géo-histoire et l'astrophysique, et plus globalement, je dirais, un trait d'union entre le monde des lettres, ce qu'on appelait autrefois les humanités, et le monde des sciences. Et je crois qu'on a dans notre monde actuel absolument besoin de beaucoup de traits d'union. Donc un grand merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Alors on va lui laisser la parole. Après, on organisera un petit temps de débat public, mais surtout ensuite, on vous proposera un pot où vous pourrez en particulier aller poser vos questions à Christian Baratelou si vous le souhaitez.
Merci beaucoup Marie-France. Et merci à Philomania de son invitation. Bonjour, bonsoir d'ailleurs plutôt à toutes et à tous. Hein, je suis frappé par le nombre. C'est impressionnant. Donc, il y a eu une allusion en fait à propos de l'astrophysique. Je ne suis nullement astrophysicien, mais il se trouve que je suis surtout un directeur d'Atlas historique. Le quatrième exemplaire de la collection, c'était justement l'Atlas historique du ciel que j'ai co-dirigé avec un astrophysicien, Pierre Léna. Et je suis, effectivement, je regrette beaucoup généralement l'opposition traditionnelle entre littéraire et scientifique. Donc, c'était certainement ce que cela signifiait. Voilà, donc ce soir, c'est très précisément la commande qui m'a été faite, était à partir du livre Géo-histoire, c'est-à-dire de m'intéresser à un parcours très, très cavalier, très rapide, parce qu'après tout, on dit le livre est un peu gros, mais il s'agit de toute l'histoire des humains, hein. Donc d'un parcours vu par un géographe d'ailleurs, vu comme les habitants de la planète Terre, et donc c'est pas finalement si gros que ça. Et par ailleurs, j'y tiens un ouvrage qui n'est absolument pas universitaire, il n'y a pas de notes par exemple, il n'y a pas tout un appareil critique complexe, mes collègues historiens, il y a des sons, tas de sons, hein. Je vais peut-être essayer un autre micro. C'est normalement un ouvrage tout à fait destiné à un large public. Bon, je ne sais pas si celui-là va marcher. Non, bon. Je peux pas utiliser les deux mains, donc si quelqu'un veut le faire marcher. Fondamentalement, il s'agit de partir de ce livre, mais de manière plus générale, il ne s'agit pas d'en faire un résumé. Là. Ce que je veux surtout, c'est vous montrer des cartes. Parce que, allusion aux atlas, hein, mon truc, hein, c'est vraiment d'essayer de penser spatialement des questions temporelles, pour le dire en termes abstraits. C'est pénible, ce petit son qui saute. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de faire marcher un autre micro? Je ne sais pas s'il marche, ça vous évitera des petits moments désagréables. Voilà, sinon c'est que c'est effectivement le système de son. Oui, maintenant je crois que le problème est le même. Donc il risque. Oui, il y a un petit problème de son qui est. Je suis désolé. Alors, je vais aller vite, puisque finalement, il faut que je tienne à peu près d'une heure. Alors, je suis vraiment désolé, parce que visiblement, mes images sont trahies. La carte est en couleur assez vive. Je pense que le problème... Bon, alors, celui-ci est moins pire. Donc, ce que vous avez normalement, c'est une carte colorée de la densité des humains. Il s'agit simplement d'illustrer le propos qui est résumé par la phrase et qui pourrait être absolument clé, vous allez le voir, c'est le fait qu'il y a au pluriel des sociétés, mais qu'au départ, il n'y a qu'une seule espèce humaine, il n'y a qu'une humanité. Je veux dire par là qu'une seule espèce humaine, on pourrait le développer biologiquement, je ne vais pas le faire, mais c'est évidemment un propos qui pourrait être tout à fait antiraciste, je ne vais pas le renier d'ailleurs de ce point de vue-là, mais ce n'est pas le sujet non plus. Il s'agit vraiment tout simplement de constater que les humains sont identiques, où qu'ils soient. Or, c'est ce « où » qui va apporter aux géographes, parce que s'il n'y a qu'une seule humanité, il y a bien des sociétés. Alors, en théorie, si vous aviez des couleurs, moi, je suis vraiment très inquiet, parce que les cartes suivantes, ça va être terrible, hein. C'est sûr qu'on ne peut pas régler, améliorer la couleur. Le problème, donc, c'est que vous avez des sociétés. On y est tellement habitué à ce pluriel que ça nous semble aller de soi. Or, pourquoi, à partir d'une même base biologique, on a cette extrême diversité des sociétés ? C'est pas du tout quelque chose dont le de fait évident. C'est ce que j'appelle. Et c'est vous avez. Il y a un pointeur. Voilà. C'est ce que j'appelle un singulier pluriel. Vous pouvez utiliser l'adjectif et le substantif comme vous voulez, dans les deux sens. Il s'agit bien de prendre cette tension et je vais le traiter sous forme d'un récit. Ce que vous auriez dû voir, je vais finir par m'exprimer ainsi, parce que vraiment le pointage, décidément, le pointage n'est pas bon. C'est un résumé des différents types du buisson, parce qu'on ne peut pas parler d'une arborescence, c'est vraiment un buissonnement des types d'espèces qui ont précédé Homo sapiens, mais précédé et éventuellement cohabité avec Homo sapiens. Hein. Vous avez donc là ce qui est entouré dans les deux ovales, ce sont les pré-humains, mais de la même lignée. En gros, même les australopithèques. Alors, je suis désolé, parce que vous n'entendez pas bien et vous voyez très mal. Bon, il ne peut rien. Donc, même si je mets comme ça, c'est le point. Bon. Donc, vous avez là une localisation qui est précisément dans la partie africaine qui est chaude, sans moment froid, sans nuit froide, sans hiver froid. Bon, ça veut dire qu'il s'agit d'une espèce tropicale, comme d'ailleurs la plupart des autres, pratiquement tous les autres singes, tous les autres membres cousins, si vous voulez, d'une espèce humaine, pareil, les plus proches, les chimpanzés, mais les plus éloignés, ils sont tous pratiquement dans la zone intertropicale. Donc, rien d'étonnant à ça, donc c'est assez banal, mais inversement, si vous prenez ce qui est en haut ici, c'est-à-dire, à proprement parler, ce qu'on appelle Homo, hein, ça commence par Homo erectus et Homo ergaster, etc. Ce pas des successions, hein, c'est des buissonnements. Ils sont cette fois-ci, je l'entoure sur la carte, partout dans l'Ancien Monde. Alors, effectivement, je n'avais pas besoin de mettre l'Amérique hein, sur cette carte, puisque jusqu'il y a 40 000 ans à peu près, il n'y avait pas d'humains en Amérique, jusqu'à 60 000 ans. En remontant le temps, bien sûr, il n'y en avait pas non plus en Australie. Donc, la carte est plus restreinte. Mais vous avez là essentiellement des populations qui peuvent se trouver dans des régions où il fait froid. Donc, ça, c'est le point essentiel. Hein, c'est pour ça que j'ai mis deux traits majeurs qui correspondent en gros aux tropiques. Vous avez là une répartition des humains qui est passée en dehors de la zone chaude, qui est resté dans des régions où il fait froid, il fait des hivers froids. Bon, ça suppose une mobilité Mais ça suppose aussi une capacité à être dans des lieux divers, bref, une ubiquité. Et des livres, ce qui fait qu'au bout du compte, ubiquité est le mot-clé, on trouve des humains à peu près partout sur Terre. Donc c'est ce que je vais marquer ici. Alors le premier point, c'est lié à la mobilité. Nos humains, je prends une vieille gravure 19e qui remonte au mont Roulands, hein, l'homme qui avance, on pourrait faire tout un commentaire sur le progrès que ça représente, un progrès qui va de gauche à droite, dans le sens de notre écriture, bon, c'est l'abscisse si vous voulez, c'est quelque chose de très courant, mais c'est pas ça mon sujet, c'est simplement de vous rappeler que petit à petit, ce qui a différencié d'ailleurs progressivement les humains des australopithèques, c'est le fait que nous avons développé une station debout, adaptée à un milieu particulier qui n'était pas celui des cousins, chimpanzés ou gorilles, qui était la savane arborée. Donc une savane au milieu chaud, ça recoupe ce que je disais il y a un instant, mais surtout un lieu ouvert, un lieu où il y avait un déplacement, où il fallait marcher assez vite. Donc nous sommes beaucoup plus marcheurs et coureurs, marathoniens, en fait, c'est notre qualité principale, que les gorilles ou les chimpanzés. Donc on est beaucoup moins costaud qu'eux, mais on marche beaucoup mieux et on court beaucoup mieux. Bon, c'est une sorte d'adaptation, hein, je ne veux pas être lamarckien, enfin, c'est quelque chose qui fait qu'une bifurcation, des modifications génétiques, ou des ondes mieux adaptées à un milieu, un certain type de milieu environnant. Ça a eu des tas de conséquences, et les conséquences liées à la station debout ont permis cette mobilité, ce développement des jambes, qui a permis aux humains de se déplacer beaucoup plus que d'autres espèces. Notre mobilité. D'ailleurs, on peut faire un petit calcul que j'aime bien faire. Si on marche 25 km par jour, pour un bon marcheur, tout à fait possible, hein, on fait le tour de la Terre en moins de 5 ans. Alors non, c'est pas vrai, parce que il n'y a pas de route circumterrestre. Hein. Il y a des océans, bon, c'est plus compliqué. Mais pour faire 40 000 km, vous voyez, il faudrait moins de 5 ans. Donc, c'est juste une formule, mais pour dire peut-être que la Terre n'est pas si grande d'ailleurs, mais surtout qu'on a cette extraordinaire mobilité qui a permis à des humains d'être partout. Sauf que là, sur le petit dessin, ils sont à poil, ce qui pose problème par rapport à la sortie de la zone chaude que j'ai évoquée il y a un instant. Donc, il y a autre chose qui permet cette ubiquité, et j'aime bien partir de ce petit objet, qui est une aiguille à char, une aiguille à coudre, pour dire qu'à partir du moment où des humains ont pu se vêtir, ben évidemment, tout a changé. Ils se sont créés des microclimats. Pour ça, il y a bien sûr un élément clé, c'est le vêtement, que je viens d'évoquer avec mon aiguille à coudre. Donc, évidemment, là, je fais un télescopage chronologique, car nous n'avons absolument pas de Fashion Week d'il y a 30 000 ans, de l'époque de notre aiguille à coudre. Mais ici, nous avons un bon exemple reconstitué à partir d'un document tout à fait réel, qui était le monsieur et ses vêtements tombés dans un glacier il y a 4500 ans au nord de l'Italie. Donc on l'appelle Ötzi, hein, du nom du lieu à la frontière autrichienne où il était, ou Hibernatus parfois. On peut savoir qu'il avait trois couches de vêtements, deux en végétaux et la troisième en fourrure, avec cinq types d'animaux d'origine. Par exemple, ses bottes sont en peau d'ours et sont d'une étanchéité parfaite qui lui permettait de se promener dans la neige, sur un glacier, etc. Donc, sans ce type d'appareil, il n'y aurait absolument pas eu de possibilité de peupler l'Amérique, puisqu'il a fallu passer par le détroit de Bering, qui était émergé, ce qu'on appelait la Béringie. Donc, en pleine période glaciaire, donc déjà, actuellement, ce n'est pas beaucoup utilisé par le Club Med, hein, ce n'est pas un endroit très agréable, entre le Kamchatka et l'Alaska, mais, évidemment, les périodes glaciaires font enlever 4 ou 5 degrés de moins en moyenne. Hein, donc, ce n'est pas très, très agréable. Or, ils sont passés, il n'y a aucun doute, on a des témoignages archéologiques, c'est par là qu'ils sont passés. Donc, ils étaient bien équipés. Alors, évidemment, il n'y avait pas que le microclimat du vêtement, il y a aussi le microclimat du logement. Et puis, et surtout, et ça c'est le plus ancien que ce que je vous raconte, c'est plus ancien que Sapiens lui-même, il y a le maîtrise du feu, hein, qui a au moins 600 000 ans, mais sans doute un peu plus, et qui a permis à nos humains d'être ubiquistes, hein, comme je viens de le dire, d'être allés un peu partout. Donc, une mobilité qui permet la diffusion. Ça nous explique la toute première carte, c'est-à-dire la répartition des humains sur la Terre. Il y en a partout. Voilà. Sauf dans quelques îles isolées, jusqu'à une période très récente, et puis bien sûr l'Antarctique. Mais ça n'explique pas le deuxième terme, qui est celui du pluriel, c'est-à-dire des sociétés. Donc voilà la diffusion que apercevez, c'est-à-dire la carte de l'image de Wintour. Il y a les petits carrés sur lesquels je reviendrai, qui est le patrimoine génétique qui n'est pas que du sapiens. Nous avons aussi du Néandertal, du Denisova, du Teva dans nos gènes. Le peuplement, il y a 60 000 ans de l'Australie, qui était jusque-là une terre inconnue. Grâce aux glaciations, les bois de mer étaient plus réduits. Donc il y a eu la possibilité de ce passage. Et puis le glissement par l'Amérique, hein, vous avez le passage de la Béringer qui est ici. Voilà. Donc des hommes partout. Oui, y compris d'ailleurs dans les îles du Pacifique. Hein, je tiens toujours à rendre hommage à cette évolution, puisque à partir de Taïwan, ils ont, il y a 5000 ans à peu près, hein, 3000 avant notre ère, ils ont peuplé l'Indonésie, puis la Micronésie. Ça, c'était d'île en île, c'était une grande proximité, ce n'était pas des grandes navigations. Mais surtout, il y a un millier d'années, pas de 2000 ans par exemple, au début de notre ère, grâce à l'invention de la pirogue et balancier, des navires de haute mer, qui leur permet une navigation extraordinaire, une navigation auturière extraordinaire, ils ont peuplé tout le triangle polynésien, hein, Nouvelle-Zélande, les îles Hawaï et l'île de Pâques, et ils ont été jusqu'au Pacifique, jusqu'en Amérique, pardon, à travers tout le Pacifique. Là, on a des documents, des traces archéologiques nettes. Ne pas oublier non plus qu'ils ont été jusqu'à Madagascar. Bon, de Madagascar à l'Amérique, c'est les deux tiers de la circonférence terrestre. Hein. Donc c'est les plus grands navigateurs, les plus extraordinaires navigateurs de l'histoire, juste avant que les Européens se mettent à faire le tour du monde au XVIe siècle. Bon, donc, et ils avaient des cartes. Alors, ça, c'était le premier aspect, c'est-à-dire cette diffusion des humains grâce à leur mobilité, la première base biologique de cette particularité de notre espèce. La deuxième, elle est là, c'est... dans notre physiologie, et dans cette vieille gravure, il y a écrit bassin d'homme, mais il serait plus juste de s'intéresser d'ailleurs au bassin de la femme. Alors c'est le problème elle-même, hein, mais sauf que ça n'a pas beaucoup de conséquences quand il s'agit des hommes, pratiquement pas. Mais c'en a quand il s'agit des femmes à cause de l'accouchement. La situation verticale des humains liée à cette savane, cette adaptation à la savane arborée que j'ai évoquée, a eu plein de conséquences. La première conséquence, c'est que la verticalité a permis à la tête de devenir plus grosse, plus lourde. Incidemment, d'ailleurs, si la place accordée au cerveau s'est développée, c'est aussi parce que les humains ont, au bout d'un certain temps, il y a déjà pas mal de plus d'un million d'années, maîtrisé le feu, et que donc on fait de la cuisson. En cuisinant, ils ont cuit des animaux, des viandes, ils ont également cuit des plantes. Et un certain nombre de plantes qui n'étaient pas comestibles crues le sont devenues cuites, et surtout, la mastication en a été très simplifiée. Alors ça a l'air pas très grave ce que je dis, mais si, parce que ça signifie que nous avons par rapport à, y compris nos cousins chimpanzés ou gorilles, a fortiori des autres, d'autres mammifères, une toute petite mâchoire, avec une musculature très faible, beaucoup, bien plus faible que celle de vos chiens, et qui néanmoins nous permet d'absorber des aliments avec le feu. Notre appareil masticatoire s'est réduit, de même d'ailleurs que notre intestin. Alors l'intestin, c'était moins important, mais la mâchoire, c'est très très important parce que ça laisse d'autant plus de place dans notre gros crâne à un très gros cerveau. Bon, ça c'est j'allais presque dire, le côté positif de la station debout. Mais il y en a un autre qui est le basculement de la hanche, qui permet de tenir cet ensemble. Or, le basculement de la hanche fait que ça prend cette forme qu'on appelle un bassin, justement, ce qu'on n'aurait pas appelé si on s'était particulièrement intéressé au bassin d'un chimpanzé, qui ressemble plutôt à celui justement de nos chattes, de nos chiens, de nos chiennes plutôt, c'est des os allongés, hein, qui sont pas une coupole qui tiennent les viscères, mais cela s'est traduit par un rétrécissement de tout le trou principal, et donc une difficulté à accoucher. La réponse pour se face à ce problème, parce que sinon ça devient une sorte d'impasse biologique, hein, nous sommes une espèce qui devrait être promise à disparaître de ce fait, c'est la solution qui a été trouvée, c'est, je suis désolé parce que l'image est un peu écrasée, mais c'est le bébé, c'est-à-dire l'extrême prématurité des petits humains. Alors, c'est facile hein, de l'illustrer, vous pouvez y penser chaque fois, vous pensez aux petits d'une autre espèce de mammifère, et alors très faible, très courte enfance, y compris des grands singes. Mais j'ai pris un autre exemple qui est celui d'une petite gazelle. Les espèces de petits herbivores comme les gazelles peuvent survivre à leurs prédateurs d'une manière très simple, c'est en courant vite. C'est parce qu'ils se déplacent plus vite et plus longtemps que les hyènes ou les lionnes, que les gazelles ont pu survivre. Oui, mais à la naissance. Ben, à la naissance, il faut qu'elles puissent courir dans les minutes qui suivent l'accouchement. Bon, alors maintenant, vous repensez à l'autre petit mammifère qui est ici. Vous le mettez au milieu de la savane et il y a les gazelles, il y a les lionnes et les hyènes qui arrivent. Ben, il ne va pas courir. Et puis, il ne va pas courir avant longtemps, d'ailleurs. Et puis, quand il va commencer à courir, ça ne sera pas terrible avant qu'il puisse courir plus vite qu'une hyène. Bon, ce n'est pas évident. Alors, j'ai vanté les membres inférieurs puissants des humains tout à l'heure, mais ça met un certain temps à se mettre en fonctionnement. Donc, effectivement, la solution, c'est la celle sociale. C'est-à-dire le fait de constituer des groupes d'humains qui prennent en charge très longtemps, même au temps très ancien, les petits de l'espèce. C'est pour ça qu'ils ont impérativement besoin, pour vivre et survivre, dès le départ et pendant très longtemps, il n'y a pas besoin d'aller chercher Tanguy, mais ça dure quand même longtemps, ils ont besoin de proches. Alors évidemment, le géographe est très sensible à ce mot. La proximité, c'est quelque chose qui a distance, c'est quelque chose qui nous parle. Donc effectivement, ils ont besoin d'être pris en charge par des adultes. Adultes qui sont souvent, ce qu'on pense, la famille, hein, qui n'a pas forcément un sens biologique. C'est dans toutes les sociétés, je parlais de la diversité tout à l'heure, la diversité des structures de parenté, c'est des choses les plus étudiées hein, dans la complexité des sociétés. Mais il y a nécessairement un certain nombre d'adultes solidaires qui prennent en charge l'enfant, même au tout début la mère également, mais pendant très longtemps l'enfant, et qui vont de ce fait, entre autres, le transformer. Parce que le gros cerveau qui a du mal à passer par le col du bassin, eh bien, il est lui-même le plus prématuré du petit de l'espèce. Il ne va cesser de grossir pendant des années, et de ce fait, le cerveau, qui naît avec assez peu de logiciels préétablis, il va, lui, être sensible à toutes les formations que vont lui donner les adultes autour de lui, toutes les transmissions. Et s'il y a une chose à laquelle un bébé est bien adapté, c'est justement bien à ce dialogue avec des autres humains environnants qui repèrent tout de suite, dont il sait capter le regard, il sait le regarder. D'ailleurs, j'ai pris volontairement dans les deux enfants qui sont là, vous le voyez malheureusement mal sur le petit qui est sur le dos de la dame, là, mais les deux regardent l'objectif, la photo. En fait, ils regardent l'humain qui tient la photo. Et ils savent dès le départ capter le regard, enfin, regarder le regard des humains. Donc ça, c'est un élément qui, effectivement, est une socialisation qui se fait très vite et très longtemps. Alors, donc, y compris, puisque nous sommes dans un établissement scolaire, hein, par tout ce processus collectif d'apprentissage, de formation, qui est la scolarité et qui va évidemment très loin dans notre société, dans l'âge adulte. Voilà, alors, juste une petite remarque. J'ai mis une famille un peu nombreuse pour l'illustrer de manière un peu humoristique. Mais nous avons, nous humains, une caractéristique parmi tous les mammifères et même les oiseaux, c'est-à-dire toutes les espèces qui élèvent des petits, nous élevons en même temps plusieurs portées. En général, dans nos portées, il y a un individu, quelquefois il y a des jumeaux, c'est rare au-delà, mais quand un enfant naît, s'il n'est pas le premier, on ne va pas chasser les aînés. Alors que votre chienne ou votre chat, quand ces chiots ou les chatons sont devenus des petits ados qui sont capables de chasser ou de trouver eux-mêmes leur nourriture, ben, les chassent, elles les poussent pour que la portée suivante puisse être élevée. Ben, c'est pas ce qu'on fait. Ah, et donc vous n'avez pas à la naissance de votre second ou de votre troisième chassé les précédents. Bon. Donc on est dans quelque chose qui est cette particularité. Résultat. Puisqu'il y a des petits groupes et qu'en même temps les humains se sont répandus sur l'ensemble des terres émergées, eh bien, il y a des sociétés. C'est un processus initial, fondateur au départ, qui explique évidemment cette complexité des humains. Et comme ils sont dans des milieux extrêmement différents, dans des régions chaudes, froides, humides, sèches, etc., qu'ils ont des histoires différentes, eh bien, ça nous donne des sociétés qui ont une extrême variété que l'on connaît. Et dont l'une des formes que j'aime le mieux illustrer, alors malheureusement là aussi les couleurs sont un peu trahies, mais c'est les langues. Un groupe, il a nécessairement une langue collective, une langue qu'on appellerait nationale dans notre forme d'organisation des sociétés actuelles, et qui est en général une langue maternelle pour chacun d'entre nous. Et ces langues, c'est quelque chose qui connaît une extrême diversité, parce que ça change facilement une langue. La preuve, si deux groupes se séparent, s'éloignent les uns des autres, n'ont plus beaucoup de relations, mais il suffit d'un siècle en général pour que les langues se différencient nettement et deviennent deux langues différentes, voire plus. Et qu'il n'en faut pas beaucoup plus, un siècle et demi, deux siècles en général, pour qu'il n'y ait plus intercommunicabilité. Et donc, ça vient de l'italien et du portugais, c'est plus du latin. Donc, vous avez ce processus qui s'est produit dans le monde, peut-être qu'il n'y a qu'une langue à l'origine, mais en tout cas, au XVe siècle, qui est le moment où il y a eu le maximum de langues, c'est le moment de maximum de diversité des sociétés, on considère qu'il y avait au moins 17 000 langues sur Terre. Aujourd'hui, on en est à peu près à 5 000, la plupart d'ailleurs étant des langues rituelles, il y en a qui disparaissent pratiquement chaque mois, et il y a une dizaine de langues qui assurent l'essentiel de 90% de la communication des humains aujourd'hui. Voilà, donc une grande diversité, par liée à cette ubiquité des humains. Et évidemment, la conséquence, c'est que nos sociétés, elles se trouvent avec plus ou moins de voisins. Et le mot géohistoire, souvent, quand on demande de le définir, je dis, c'est tout simplement l'histoire, on a pour partie l'histoire de ses voisins. On sait bien, à titre individuel, hein, quand on habite, les gens qui sont dans l'appartement d'à côté, du dessus, du dessous, ou la maison, du pavillon d'à côté, s'ils ont telle ou telle initiative, particularité, s'ils sont bruyants, s'ils ont une cuisine odorante, s'ils sont très aidants, très serviables, etc. Il peut y avoir plein de choses. Ou bien s'ils sont très malades, avec une maladie contagieuse, c'est évidemment quelque chose qu'il faut transposer à l'idée de l'ensemble des sociétés. Quand vous avez une société qui a une autre société voisine très proche, toute innovation dans cette société voisine, une innovation technique, qui peut être militaire, mais aussi simplement économique, une initiative involontaire, par exemple une épidémie, une nouveauté religieuse, etc., ça aura très vite des conséquences dans votre propre société. Parce que ça se traduira par une diffusion de l'épidémie, ou par une guerre, ou par une concurrence économique, etc. Et vos voisins, la société voisine, elle a elle-même des voisins. Donc, vous avez pour partie l'histoire de vos voisins, mais vous avez pour partie l'histoire des voisins de vos voisins. On peut continuer loin. Tout dépend du nombre de voisins. C'est une histoire de connexion. Plus on est relié, plus on est connecté, plus on a des complexités historiques qui se posent. D'où le fait que ça soit spatial, ce processus historique. C'est une géographie, une géohistoire, puisqu'il s'agit bien sûr d'un processus temporel. Voilà. Mais en même temps, cette fragmentation des sociétés, ça aboutit à ce que j'appelle un puzzle. Et j'ai volontairement mis un vrai puzzle, un jeu, mais qui est un jeu dont les pièces sont les états actuels, puisque aujourd'hui, nos sociétés sont fragmentées dans le modèle des états européens du 18-19e siècle, c'est-à-dire une frontière linéaire et une homogénéité interne, ce qui n'était pas le cas de toutes les formes sociales, loin s'en faut. Alors, chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'en même temps que les humains se sont diffusés, ils ont augmenté en nombre. Alors évidemment, l'un explique l'autre. Plus les humains se diffusent, plus ils ont de possibilités de lieux différents où vivre, plus ils peuvent être nombreux. En même temps, plus ils sont nombreux, plus il y a des candidats à un déplacement et à la création d'une autre société un peu plus loin. Donc on a la croissance et diversification qui se produisent. Donc vous avez ici un résumé très bref, mais je vais le faire de manière plus détaillée dans un instant. Vous voyez qu'au départ, c'est-à-dire ici, je me situe avec les Homo sapiens, nous sommes ici à moins 60 000 au moment du peuplement de l'Australie. Vous voyez, c'est assez stable, aux environs 600 000 personnes sur Terre. 600 000 personnes, c'est quoi, 4 fois Orléans, quoi. C'est sur toute la Terre, parce que déjà c'est le moment du peuplement de l'Australie, l'Amérique ça suit peu de temps après, il y a environ 40 000 ans. Vous voyez, puis petit à petit ça augmente. Bon, puis tout d'un coup, ça c'est le moment où on va se mettre à domestiquer, à inventer l'agriculture, si vous voulez, c'est le néolithique, et bien à ce moment-là, la population va se mettre à augmenter. On va passer à 1 million, 2 millions, 100 millions à la fin du néolithique, et puis alors après, on arrive aux 8 milliards qui sont à comptabiliser. Vous savez, un demi-milliard près, on ne sait pas combien il y a d'humains sur Terre aujourd'hui. Mais enfin, en gros, on estime, on est un peu plus de 8 milliards maintenant, c'était en 2022. Alors voilà, j'avais fait dans l'atlas de la Terre une courbe qui représente justement le néolithique. On commence il y a 10 000 ans à peu près 2 millions de personnes, tout au plus. Et puis là, on atteint les 100 millions il y a environ 3 000 ans. 1 000 avant notre ère, si vous préférez. Voilà, une très belle croissance liée à la... Bon, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrouler. Hein. Donc, une petite remarque aussi, on parle, c'est un débat, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, mais ça peut, on peut en débattre plus tard, c'est la statue que donne ce néolithique, puisque vous avez par exemple, c'est un mécanisme de la croissance, les femmes ont beaucoup plus d'enfants au néolithique, à cause de la sédentarité, que l'époque des jasquelettes, du paléolithique si vous préférez, où la mobilité faisait que bah, il fallait emmener les enfants, les porter, etc. Donc on voit sur les squelettes qu'ils avaient 3-4 enfants maximum en 40-50 ans de vie. On mourait beaucoup avant, mais l'espérance de vie n'est quand même pas de 100 ans. Et d'autre part, avec le néolithique, on a une natalité qu'on appelle naturelle, c'est-à-dire 7-8 enfants par femme et quelquefois plus. Bon, donc des humains partout, et là c'est une image du monde au 15e siècle, où j'ai essayé de classer les sociétés, là vous avez la légende, hein, en fonction de deux critères. En abscisse, je vais commencer par l'ordonnée, c'est le plus simple, verticalement, c'est la densité. Vous avez des sociétés, sur le planisphère que j'ai montré, qui sont très très peu denses, puis de sociétés qui sont, donc c'est celles qui sont en bas, et puis des sociétés qui sont au contraire très denses. Et puis, vous avez aussi des sociétés qui ont beaucoup de voisins, mais des voisinages qui peuvent être lointains. Par exemple, si c'est des sociétés mobiles qui font des caravaniers, alors on va y revenir, ils ont beaucoup de voisinages, beaucoup de connexions. Et puis, si ce sont des sociétés qui sont au contraire assez isolées, ben, elles en ont très peu. Vous voyez, je peux tout de suite en dire un mot. Les chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas un hasard, bien sûr, ils sont restés chasseurs-cueilleurs, complètement isolés. Il y a un cas, vraiment isolé du reste, très peu connecté, ce sont les aborigènes australiens. À la fois parce que l'Australie a une dimension insulaire qui a été accentuée lorsque le niveau de la mer a monté, mais surtout parce qu'en même temps, il y a eu aridification, et comme ils habitaient dans les régions, disons, type méditerranéen, au sud de l'Australie, eh bien, ils sont devenus très isolés. Il y a un bel exemple, vers 30 000 avant notre ère, pratiquement toutes les sociétés humaines acquièrent une nouveauté technique, ça va assez vite comme diffusion, c'est pas où c'est apparu pour la première fois, qui est l'arc et les flèches. Sauf les Australiens, les boomerangs. Donc, on a vraiment une société très peu connectée, jusqu'au 18e siècle, où arrivent effectivement les navires européens. L'inverse, c'est ici. Hein, ce sont les sociétés d'agriculteurs denses. Ces sociétés, c'est la riziculture inondée, c'est les sociétés méditerranéennes autour du blé, ou du nord de l'Inde, à la fois blé et riz. Vous avez là des mondes extrêmement denses. Ce sont effectivement une toute autre histoire qu'il va y avoir. Mais vous pouvez avoir des cas un peu particuliers. Vous voyez, par exemple, ici, je vous ai mis des sociétés peu denses, mais très connectées. Là, ce sont des sociétés d'éleveurs, des sociétés des steppes. Les derniers, les plus connus, c'est les Mongols. Des sociétés qui ont beaucoup de relations parce qu'elles maîtrisent l'outil de la distance, c'est le cheval, ou éventuellement le chameau de Bactriane, même à une plus grande, une vitesse beaucoup plus modeste, le bœuf, hein, les chariots à bœufs. Ils ont une maîtrise tout ça. Ils sont des caravaniers, ils sont des éleveurs, ils sont des mangeurs de viande d'ailleurs, et non pas de végétaux, différence des agriculteurs. Et ils sont malgré tout parmi les plus connectés, puisqu'ils vont de part et d'autre de l'axe de l'ancien monde dont je vais parler dans un instant. Voilà, cet axe il est là. C'est là où vous avez les sociétés les plus denses, ces sociétés qui sont jointibles les unes aux autres, hein, le monde méditerranéen, on va voir c'est le monde romain, par exemple, au début de notre ère, le monde perse, toute l'Inde du Nord, et puis le monde chinois, et puis l'Asie du Sud-Est. Toutes ces sociétés sont en relation les unes avec les autres depuis des millénaires. On peut remonter au paléolithique, hein, il n'y a aucun doute, ce que fait le roi Gourand, par exemple. Et donc, vous avez là des sociétés où les innovations, positives ou négatives, hein, j'ai aussi des épidémies, bien sûr, circulent d'un bout à l'autre. Ça, c'est un élément important et totalement différent des autres sociétés. Je crois que je les ai entourées en jaune. Enfin, je vais dire deux mots de ça dans un instant, mais vous voyez, ces autres sociétés, oui, alors le jaune, vous pouvez peut-être le deviner. Ces sociétés en jaune sont, elles, non connectées au reste. C'est une autre histoire jusqu'au 15e siècle. L'Amérique, bien sûr, en particulier, mais les Australiens, dont je vais vous parler, et très largement les Polynésiens, et pour partie l'Afrique subsaharienne. Alors, ce que j'avais mis ici, sous la fascie bleue, ce sont justement ce monde des steppes, ces sociétés qui, pour une raison purement bioclimatique, hein, les humains n'y sont pour rien, vous avez au nord de ces terres de forêt, qui sont devenues des terres de labour, comme ici, hein, on aurait naturellement une forêt s'il n'y avait pas les humains n'étaient pas intervenus, une forêt atlantique, c'est-à-dire du chêne pour l'essentiel. Eh bien, vous avez une densité humaine considérable, et ces densités, elles sont reliées en grande partie justement par ces mondes cavaliers où l'agriculture n'est pas possible dans les steppes, mais où l'élevage l'est. Voilà, donc dans Géohistoire, ça se traduit par, donc pour ceux qui se l'ont procuré, ça se traduit parce que maintenant j'appelle chapitre 4, chapitre 5. C'est-à-dire le chapitre 4, j'ai deux chapitres qui sont synchrones, ce n'est pas des étapes chronologiques, ils sont en même temps, mais là, dans le chapitre 4, il s'agit des sociétés américaines, nord de l'Eurasie, sud de l'Afrique, l'Océanie, dont l'histoire est différente de ce qui se passe dans l'Ancien Monde. Ils n'ont pas de connexion, ou très très peu de connexion entre eux. C'est d'ailleurs très intéressant, et c'est un chapitre que j'ai trouvé beaucoup de plaisir à écrire, parce que c'est une foule d'expériences historiques profondément différentes de celles dont on a l'habitude. Et où les mots qu'on utilise, on dit l'Empire Inca, l'Empire Aztèque, les royaumes de Hawaï, non, c'est autre chose, et on n'a pas les mots. Parce qu'on utilise notre vocabulaire, nos outils intellectuels pour essayer de les comprendre. Où les expériences historiques ne sont pas les mêmes. L'idée, par exemple, pendant très longtemps, on a vu que c'était quand même un peu plus compliqué, que l'agriculture était un progrès, l'État un progrès, la monnaie métallique un progrès, l'écriture, etc. Bon, là, ils n'ont pas forcément, ils peuvent l'avoir d'ailleurs. Mais la monnaie métallique, non, l'écriture, oui, parfois, c'est pour certains. Mais c'est autre chose. Il y a d'autres histoires. Et on voit que l'humanité aurait pu prendre d'autres chemins que celui qu'elle a pris, qui a été celui de la mondialisation européenne. Et puis, ensuite, le chapitre suivant, c'est le contraire. C'est ce qui se passe dans l'axe où se crée une mondialisation avec 75% de l'humanité. De la Méditerranée aux mers de Chine, au Japon, c'est l'essentiel. Et où là s'inscrit quelque chose qui va progressivement se dilater à l'ensemble du monde. L'exemple de la monnaie métallique est un bon cas. Raconte une histoire qui devient progressivement mondiale. Voilà, donc voilà notre héros, si j'ose dire, géohistorique, l'axe de l'Ancien Monde, je ne l'ai jamais vu aussi pâle, mais il est quand même fortement dense. Et vous avez l'Empire romain, je l'ai pris au 1er siècle de notre ère, parce que c'est un moment de très grande simplification géopolitique, ce qui signifie un moment de très grande circulation économique, démographique, culturelle. Ça aboutit aussi à la peste de Justinien, d'ailleurs, qui vient de l'Est, qui arrive en Méditerranée. Donc, vous avez là l'Empire romain, l'Empire des Perses ou Parthes, l'Empire Kushan, dans le nord de l'Inde, et puis l'Empire des Han, l'Empire chinois. Et puis, déjà, des routes terrestres, des routes de la soie ou maritimes, des routes des épices, qui font circuler des biens. Déjà, les Romains utilisent, consomment à prix d'or, évidemment, de la soie, ou du thé, ou des objets, enfin, des choses qui viennent de Chine, de même que les Chinois utilisent du verre, des perles de verre, par exemple, ou de l'acier, qui vient de l'Est, de l'Ouest, pardon. Alors, cet ancien monde, il faut le comprendre en fonction, bien sûr, de contraintes naturelles, de contraintes du monde terrestre, hein, du monde biophysique. Il y a bien d'abord, par rapport à l'Afrique noire, cette énorme coupure qui ne cesse de s'aggraver, par désertification du Sahara. Vous avez le monde de la forêt septentrionale, et au contraire, un monde qui facilite les échanges, qui est le monde des moussons. Alors, il ne faut pas oublier que la mer centrale, sur le plan historique, ben, ce n'est pas la Méditerranée, comme on le fait dans notre histoire occidentale. Bien sûr, à l'ouest, c'est la Méditerranée, mais le point où les navigations couturières sont les plus anciennes, les moussons, c'est tellement simple. Hein, pour aller d'est en ouest et d'ouest en est, il suffit d'attendre 6 mois, de changer de saison, comme dire monsoon. Et vous avez donc là l'essentiel, avec évidemment un prolongement est, qui est le Pacifique occidental, et puis un prolongement ouest, qui est la Méditerranée. Et là, vous avez aussi un grand ensemble de circulation qui est probablement plus important, même si ça se combine tout ça, avec les routes terrestres, les routes de la soie. Voilà. Et puis, il y a quand même des obstacles dont il faut dire deux mots. Voilà, en gros, le système des routes de la soie, je n'ai pas le temps de développer. Et je voulais faire une remarque qui me semble particulièrement bien illustrer la force de ce lieu d'échange, c'est qu'entre le 6e, notre première occurrence, si j'ose dire, c'est en Lydie, en Turquie occidentale, c'est des Grecs, où il y a le premier témoignage qu'on connaît, mais ça se répand très très vite dans l'ensemble, c'est la monnaie métallique. Et ça correspond en gros à ça. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, évidemment. on a inventé l'idée que finalement une matière première pour faire la symbole de la valeur, c'est la monnaie, c'était d'utiliser certains métaux rares et faciles à travailler, mais en même temps qui se conservaient bien, l'or, l'argent, éventuellement le cuivre. La monnaie métallique, ça n'a rien d'universel, mais ça l'est sans personne n'ait décidé. C'est un truc qu'il n'y a pas tout d'un coup un inventeur de la monnaie qui dit bah tiens, je vais décider que c'est ça qui symbolisera la valeur et qu'il va falloir le mettre dans toutes les sociétés. Et en l'espace de 2-3 siècles à peu près, entre le 6e et le 3e, eh bien, on le trouve en Perse, on le trouve en Inde, on le trouve en Chine, on le trouve en Méditerranée, et ça s'appelle, finalement, il y a très peu de formes de monétaire, même si dans le détail c'est très compliqué, mais on appelle la sesterce, la drachme, la roupie, et les sapèques, la sapèque chinoise. Eh bien, ce sont toutes des petits disques métalliques. Alors, ils ne sont pas tous fabriqués de la même manière, il y en a des fondus, il y en a des frappés, mais peu importe, ça aboutit au même résultat, le petit rond qu'on a encore dans nos poches, là, même si c'est sans doute la fin, qui représente de la valeur et qui est de la monnaie métallique. Mais par ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas des monnaies. Hein. Par exemple, il y a des monnaies de plumes ou de cabosse de cacao, puis on connaît en Afrique et dans le monde de l'océan Indien, les corites, un certain type de coquillages tropicaux, qu'on trouve facilement sous les tropiques, enfin, pas suffisamment facilement pour que ce soit pas rare. Voilà. Donc la monnaie, on a, mais ce n'est pas de la monnaie métallique. Mais inversement, il y avait besoin d'un commun étalon de la valeur dans cet axe d'échange de l'ancien monde. Et ce n'est pas un hasard si la même innovation a été utilisée, s'est diffusée extrêmement vite. Hein, et que très vite, d'ailleurs, s'est fait un métier particulier qui était celui de dire, bah, tiens, une drachme, ça vaut autant de sesterces, ce qui vaut autant de roupies, etc., dans le métier de banquier. Donc, voilà, alors, j'avais mis dans la, il y avait une allusion à l'Atlas du ciel. On a aussi, sur cet axe, un certain nombre de diffusions religieuses. Je vous mets ici l'astrologie, hein, puisque le zodiaque, pardon, ça aurait dû aller un peu vite, le zodiaque est une invention babylonienne, enfin mésopotamienne, qui est passée par les Grecs, ils l'ont codifié en 12 symboles, transformé à Alexandrie, c'est devenu le signe du zodiaque, hein, actuellement, mais ça s'est diffusé aussi en Inde, non. Et par ailleurs, il y a le zodiaque dit chinois, qui a aussi certainement des parentés, même si on a du mal à déceler, et vous avez des diffusions à l'intérieur de cet axe de toute autre chose que de la monnaie ou que des maladies, comme on aura l'occasion de le voir. Voilà, là je vous ai mis le problème de l'astronomie, et là vous avez un ciel dont on en a tous les héritages arabes, les noms d'origine arabe qui sont dans notre ciel, c'est-à-dire des noms de constellations pour le plus souvent. Voilà. Bon, là, je n'ai pas le temps, malheureusement, de développer. C'est le fait qu'il y a aussi des séparations, et vous avez deux couleurs. Il se trouve que j'ai fait, il y a l'année dernière, le sas cartographique qui est à l'entrée de la nouvelle galerie du temps du Louvre-Lens. Alors, une galerie du temps, ça m'intéressait, et donc faire des cartes du temps, c'était pour ça qu'ils m'ont demandé. Donc, entre autres, on a une carte qui n'était pas dans les atlas, enfin, je pense qu'il sera dans une réédition, qui est une carte des types de religions. Donc vous avez tout le monde des religions monothéistes, ici, chrétienté, islam, judaïsme, hein, mais au zoroastrisme aussi, même si c'est une religion très largement disparue. Donc vous avez cet ensemble, et puis ici vous avez le monde hindouiste-bouddhiste, qui est né en Inde, qui a tout contourné l'Himalaya, et qui est devenu le monde chinois, le monde japonais, etc. Donc, vous avez deux, on dit parfois, les religions abrahamiques et les religions dharmiques. Bon, voilà. Donc, il y a bien aussi des différences, des ruptures, hein, de part et d'autre, mais à l'intérieur, il y a des échanges, des hybridations qu'on peut avoir. Bon, à force de relations, à force de liens, de commerce, eh bien, progressivement, on assiste à des phénomènes d'unification politique. Les meilleurs candidats, ben, ce sont les cavaliers des steppes. Parce qu'eux, ils tiennent toute la distance. Ce sont les maîtres de la distance. Donc, quand généralement les cavaliers des steppes sont trop peu nombreux par rapport aux sédentaires, mais si la plus grosse masse de sédentaires, c'est-à-dire les Chinois, est fractionnée, comme c'est le cas au XIIe siècle, où il y a trois royaumes concurrents, eh bien, les steppes s'émancipent. Et donc, au XIIIe siècle, vous avez l'Empire mongol qui s'est étendu. Bah, en gros, sur les routes de la soie. C'est tout simplement une structure économique, un réseau, qui devient une structure géopolitique. un espace, un territoire. Alors, ça dure un siècle à peu près, et ça se traduit par une explosion économique, puisque ces cavaliers sont des conquérants, mais sont aussi, d'abord, des caravaniers, des commerçants. Donc, vous avez là une carte de l'ouest de l'Ancien Monde, notre Occident, vous trouvez l'Occident médiéval, nous sommes au XIIIe siècle, hein. C'est en Europe ce qu'on appelle le beau XIIIe siècle, le temps des cathédrales, le moment de Saint-Louis, et le chevet de la cathédrale d'Orléans. Donc vous avez là un moment de grande croissance économique, mais qui n'est qu'une petite partie de la grande croissance économique que l'on rencontre dans tout l'axe, grâce à la circulation mongole. Alors c'est entre autres le moment où le commerce se développe avec la Méditerranée orientale, hein, où les Européens apprennent à consommer tout un tas de choses, comme le sucre d'ailleurs, dont je vais vous reparler. Mais circulent aussi les cochonneries, ici les virus, c'est la peste, et au XIVe siècle, même au XIIIe pour une bonne partie de l'Ancien Monde, et au XIVe pour l'Europe, parce que c'est au bout, donc ça met un peu plus de temps, eh bien vous avez l'explosion de la peste noire. Et en gros, un tiers de la population qui passe. Mondialisation, épidémie, c'est un classique. Ah, bon, alors je pourrais vous parler de mondialisation plus récente, du sida, voire du Covid, donc, mais c'était quelque chose qui est très net à ce moment-là. Alors, la peste noire entraîne le fractionnement des échanges, des crises économiques, des crises politiques, c'est l'époque de Tamerlan, des massacres, mais au XVe siècle, hein, on cherche à retrouver ces liens, à reprendre ces liens. Et donc vous allez avoir, aux deux bouts, en Chine, mais aussi à l'ouest, deux bouts, on va essayer de renouer les liens, puisque au milieu, il y a les conquêtes ottomanes, j'ai parlé de Tamerlan il y a un instant, on a des éléments qui fractionnent nos routes. Alors, les premiers à partir, au début du XVe siècle, ce sont les Chinois. Vous avez des routes comme en sillonné, Shenghe, des grandes flottes chinoises, c'est une grosse opération d'État. Hein, c'est l'État qui se projette loin, une énorme flotte, des troupes annexes, etc. Et puis ça ne dure pas. Il s'arrête en 1433. On peut évidemment rêver de ce qui serait passé. Et je pense qu'on ferait la même conférence sur la mondialisation, mais elle serait en mandarin, elle serait en une langue européenne. À l'ouest, les Européens, eux qui ont commercé avec la Méditerranée orientale et qui ont acquis un certain nombre de goûts, en particulier le goût du sucre, mais c'est le principal des épices, de manière plus générale, on pourrait dire les épices, le sucre étant une épice à l'époque. Hein. Donc les Européens ont cherché à connaître, à se procurer un certain nombre de biens qu'ils ne pouvaient pas fabriquer eux-mêmes. C'est ça les épices. Hein. Ce sont des produits agricoles tropicaux, donc comme l'Europe est tempérée, on ne peut pas les produire en Europe. On ne peut pas produire du poivre, on ne peut pas produire de la girofle ou de la cannelle, on ne peut pas surtout produire du sucre. C'est celui du plus grand besoin physiologique. Et donc, nos Européens essayaient de produire du sucre, parce que bon, le sucre ne supporte pas l'hiver, donc ça pousse en 18 mois. Donc ils ont un peu essayé à Chypre, à Malte, etc. Mais globalement, ils vont surtout, au XVe siècle, s'intéresser à cette Atlantique du Nord-Est, hein, c'est-à-dire Madère, les Açores, les Canaries. C'est toutes ces îles ben, qui vont devenir les premières îles à sucre. Parce qu'il n'y a pas d'hiver, c'est sous les alizés. Alors, si vous avez été à Madère, c'est très doux. C'est justement pour leur qualité climatique hein, que ces îles vont devenir intéressantes et que les Européens vont s'y intéresser. C'est aussi dans ces îles, pour ne pas oublier que Christophe Colomb a vécu 20 ans à Madère, qu'ils apprennent la circulation des vents et des courants dans l'Atlantique Nord. Voilà, donc l'Europe que connaissent les Européens, et d'ailleurs de manière générale l'Ancien Monde, même s'il y a quelques nuances, c'est ce qui est très bien cartographié, c'est le monde occidental. Là, on fait des cartes qu'on appelle les portulans, où on a vraiment les routes de circulation. Ce qu'on connaît un peu par ouï-dire, dans lequel on fait des cartes un peu plus mythiques, et qu'on connaît entre autres par Marco Polo, c'est-à-dire des voyageurs du XIIIe siècle qui ont circulé avec les Mongols, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît et dont on rêve. Où les Européens veulent aller. Le reste du monde en ignore tout, en particulier évidemment ce qui est plus à l'ouest de l'Atlantique. D'où le fait que, si je résume, au XVe siècle, les Européens, l'axe de circulation, si je veux bien, voilà, l'axe de circulation, qu'il soit terrestre ou maritime, c'est à peu près ainsi. Ce que les Portugais vont faire au début du XVe siècle, c'est contourner l'Afrique, ça prendra 70 ans, ça sera difficile parce qu'ils n'avaient aucune idée de la taille de l'Afrique. S'ils en avaient une idée, peut-être qu'ils auraient renoncé. C'était vraiment... Mais ça sera quand même rentable hein, comme opération. Et puis, comme le monde qu'ils connaissent, on vient de le voir, c'est à peu près ça, il y a l'idée que si on part vers l'ouest, on arrive à l'est. Donc, vous avez la peinture de Colomb, même s'il n'est pas le premier des Européens à avoir été jusqu'en Amérique, c'est le premier d'une initiative qui va, je dis toujours, ce n'est pas le premier voyage de Colomb qui est important, c'est le second. C'est d'y retourner. C'est de faire quelque chose qui va amener une mainmise des Européens sur l'Amérique. Donc, effectivement, en partant dans l'inconnu, bah, il découvre quelque chose et ça change évidemment pas mal le cours des processus historiques. Voilà le deuxième voyage de Colomb. Bon, j'avais mis, mais je crois que... je ne sais plus combien de temps il me reste. Je n'ai pas vu même piano. Je vais être... Dix minutes, oui, alors ça va être très rapide. Hein. Donc je ne vais pas vous commenter, c'était simplement pour vous dire que tous les voyages maritimes vont suivre les courants et les vents. Il y a une logique, donc il faut les connaître. Donc effectivement, le monde de l'océan Indien, je l'ai évoqué il y a un instant, mais autour de l'anticyclone, la particularité des Européens, c'est d'être face à l'ouest, le vent d'ouest, c'est curieux. Hein. C'est eux qui vont partir au loin alors que le vent les ramène. Oui, mais c'est bien de partir quand on sait qu'on pourra revenir. Donc c'est aussi énorme, c'est très important pour les marins. C'était la route de l'Atlantique Nord, la route des Vikings, qui disparaît avec le froid au XIIIe siècle. Et puis vous avez le développement de routes dans l'Atlantique qui vont chercher les alizés pour aller à l'ouest et qui reviennent évidemment par la dérive, le Gulf Stream, hein, puis la dérive du nord-ouest. Et pour pouvoir aller contourner l'Afrique, maintenant on passe à l'ouest chercher les alizés. Donc vous avez toute une circulation autour de l'anticyclone, etc., et qui deviennent la route des compagnies des Indes. Bon, même chose, on a dans le Pacifique une circulation autour de l'anticyclone du Pacifique, mais qui est évidemment beaucoup plus modeste. Mais vous avez ce bouclage du monde, hein, qui est déjà une première forme de mondialisation. Point important, les Européens vont dominer l'Amérique. Absolument pas ailleurs, hein, quand les compagnies des Indes arrivent en Inde, en Chine, etc., ils sont dehors, ou ils s'y font du commerce, c'est tout. Ils peuvent prendre quelques petits points commerciaux, des emporiums, comme on dit. Mais c'est tout. Mais même en Afrique, hein, ils n'arrivent pas à pénétrer. Ils peuvent s'installer sur le bord. Il faut bien sûr s'entendre avec les sociétés locales, parce que sinon, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas pu. Ils pourraient vous attaquer le fortin rapidement. Donc, il y a quelques petits points d'appui sur le littoral africain, mais ça ne va pas loin. C'est à la fin du 19e que les Européens vont pénétrer en Afrique. Et puis, c'est l'Amérique qui va être l'élément essentiel. Et élément essentiel parce que ça se traduit, ce qu'on voit dans les petites graphiques qui sont en haut, par une catastrophe démographique extraordinaire. Il ne faut pas oublier ça. L'Amérique, c'était 50 à 80 millions d'habitants au XVe siècle. C'est 10 fois, c'est le dixième, c'est-à-dire dans les 5 millions, à la fin du XVIe siècle. C'est la plus grande catastrophe démographique de l'histoire. Donc ça se traduit d'ailleurs par une régression des terres agricoles, ou si vous préférez, on aurait pu faire la carte inverse, une augmentation de la forêt. Ce qui fait que, si vous prenez l'histoire du CO2, on peut le voir dans les glaces de l'Antarctique, ça. Hein. Si vous prenez l'histoire du CO2, vous avez une masse de CO2 qui est à peu près constante dans l'atmosphère terrestre jusqu'au XVe siècle, et puis une baisse considérable de ce CO2 liée au reboisement de l'Amérique. Et, évidemment, ensuite, avec la révolution industrielle, là, le CO2 s'envole. Bon, c'est évidemment quelque chose qu'il faut comprendre, parce que sinon, les Européens, ils n'auraient jamais pu maîtriser les sociétés amérindiennes. En fait, ils ont maîtrisé les sociétés mourantes, en réalité. Alors pourquoi ? Bah, parce qu'il y a une grande dissymétrie des pandémies. Hein, les Européens ont amené plein de cochonneries, et en échange, ils en ont même ramené avec les premiers esclaves africains. Et inversement, ils en ont eu très peu en retour. Une forme aiguë de syphilis, enfin ça n'a pas massacré les populations d'Ancien Monde, alors que, comme vous pouvez le voir, les simples oreillons ou la rougeole, ça a massacré des populations amérindiennes, a fortiori la variole et la tuberculose. Bon, pourquoi ? Ben parce que les sociétés amérindiennes étaient très peu liées entre elles, donc peu de pandémies, pas de bassin épidémiologique commun, donc pas d'anticorps. Les Européens étaient au contraire une partie prenante gigantesque des bassins épidémiologiques de l'Ancien Monde. Ça aurait été non pas des Européens, mais des Indiens ou des Chinois qui seraient arrivés en Amérique, le résultat aurait été le même. Voilà, par exemple, aujourd'hui, l'archéologie amazonienne est absolument passionnante parce qu'on croyait au XIXe siècle, on appelait ça la forêt vierge. On croyait que c'était une forêt primaire, mais pas du tout. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était cultivé, qu'il y avait des villes, etc. Bon, je ne vais pas développer parce que plus le temps. Résultat, vous voyez que si je reprends ma croissance néolithique de tout à l'heure, on a ce phénomène. Si je voulais remontrer, c'est parce que ça, c'est la croissance de la population depuis moins 1000 avant notre ère jusqu'au 10e siècle. Bon, vous voyez, c'est avec le creux ici de la décroissance amérindienne, hein, alors qu'ailleurs, ça augmente. Malgré tout, la population a un peu diminué au XVIe siècle. Si je remets le néolithique, c'est-à-dire la carte, le graphique précédent, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez l'extraordinaire croissance. Donc il n'y a pas de doute, on va le voir encore mieux dans l'image suivante, nous sommes une espèce invasive. Et là voilà, c'est cette fois-ci le 18e, 21e siècle. On part de 800 000 lions d'humains à peu près au milieu du 18e siècle et on arrive à 8 milliards. Donc si je remets le néolithique, la période agricole, c'est ça. Puis si je remets le néolithique, attention, regardez bien, c'est à la même échelle, le petit truc qui est là. Voilà, là on est au début du néolithique, là c'est la grande période agricole, et puis ça, on est au 18e, 20e siècle. Bon, l'échelle de temps est de ce fait pas tout à fait la même, mais enfin, ça nous donne une idée de ce croissance. Voilà, autre élément, grâce à ce déséquilibre démographique que j'ai évoqué, les Européens ont à coloniser le monde. C'est une carte que j'avais tenu à faire, c'est-à-dire montrer qu'à un moment ou à un autre, alors évidemment ce n'est pas synchrone, hein, des Européens pris en bloc, pas des empires coloniaux séparés, ont à coloniser pratiquement tout. Alors éventuellement d'une manière un peu indirecte, il y a des pays qui ont qui ont résisté. Hein, la masse chinoise, les Européens, ils ne sont jamais arrivés. Ou le cas du Japon, et qui a colonisé la Corée, qui a copié l'Europe. Donc c'était loin de l'Europe. Mais pour le reste, les Européens ont été colonisateurs d'une manière des fois très tardive, hein, comme en Indonésie ou en Polynésie, même en Afrique noire, c'est fin 19e, mais partout. Donc le résultat, c'est un partage du monde. Alors bon, j'ai plus le temps, je voulais vous expliquer qu'aujourd'hui, ça pose des problèmes de cartographie, parce que vous voyez ça, si vous cartographiez l'Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle, vous avez des empires coloniaux. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y avait des sociétés indiennes, amérindiennes, comme l'Empire Comanche, qui est un empire cavalier, qui ressemblait un peu à l'Empire mongol, si vous voulez, et qu'on ne voit pas dans les cartes de la colonisation, qui avait disparu. Et donc, de ce fait, quelle est la bonne carte? On peut se demander. Les deux, bien sûr. Alors, voilà. Bon, même chose au nord des Grandes Plaines avec l'Empire Sioux, je n'ai pas le temps d'y revenir. Donc, j'ai une double page que je tiens beaucoup, c'est le fait qu'on prend l'Afrique début 19e, avant les colonisations, il y a juste le début de la colonisation française en Algérie, et puis dans le sud de l'Afrique, c'est tout. On peut considérer aussi l'Empire Ottoman, mais on est dans le monde méditerranéen. Et si vous prenez le congrès de Berlin, 1885, le partage de l'Afrique, voilà, c'est des parts de gâteau, vous avez là, effectivement, une autre carte. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que la carte ici a disparu sous celle-là. Bon, un point clé ou de rapport des humains sur la Terre, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que au milieu du XXe siècle, quand j'étais étudiant, on pouvait facilement constater que ce qu'on appelait le tiers-monde, ça coïncidait avec la zone intertropicale. Il ne fallait pas le dire, parce que ça aurait été lu comme du déterminisme. Ils sont pauvres parce qu'il fait chaud. Ben non, c'est pas ça le problème. Le problème est tout un élément historique. Ça m'a amené à faire avant un bouquin sur l'histoire du petit déjeuner, parce que c'est des produits tropicaux, le thé, le café, le cacao, le sucre de canne. Donc, vous avez là une coïncidence qu'on voit. Eh bien, encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans une large mesure, les pays les plus pauvres, c'est aussi des pays de la zone intertropicale. Mais voilà, si on prend des produits tropicaux, évidemment, on y comprend mieux. C'est toujours vrai aujourd'hui, de ce point de vue-là, je ne vais pas insister. Cette histoire, elle remonte au XVe siècle, on l'a vu avec les îles dans l'Atlantique. Les Européens, habitant en milieu tempéré, recherchent des produits qu'ils ne produisent pas chez eux. Pour ça, ils se ruinent en se vidant de leur or et de leur argent, donc il faut aussi chercher de l'or et de l'argent. Donc, ce qu'ils vont chercher loin, ben, finalement, ils vont le trouver en Amérique grâce à cette inégalité que j'ai évoquée. C'est à la fois des zones intertropicales où ils vont installer des plantations, des produits tropicaux, Et puis, donc ils ne s'intéressent qu'aux zones intertropicales, hein. Le reste, ils s'en fichent largement. Il y a un peu de fourrure au Canada, mais c'est vraiment rien. Et d'autre part, ils vont contrôler les Antilles, ça c'est très très important. Et puis d'autre part, là, ils vont y trouver aussi de l'or et de l'argent, puisqu'ils n'avaient pas été utilisés, vu que la monnaie métallique n'avait pas cours. Donc on s'en servait très peu pour faire un peu d'orfèvrerie, c'est tout. Mais évidemment, cette exploitation de l'Amérique, puis d'autres régions, a comme conséquence la nécessité de main-d'œuvre, des plantations, d'où les traites, bien sûr la traite atlantique, l'essentiel, mais aussi les coulis au XIXe siècle, etc. D'où ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le fait qu'il y a un processus historique qui aboutit à cette dissymétrie qu'on a ultérieurement appelée Nord-Sud. Voilà, et donc je n'ai plus le temps. Là. Inversement, à la fin du XIXe, les Européens devenus très nombreux vont avoir des excédents démographiques qui, cette fois-ci, vont s'intéresser à l'outre-mer tempéré et froid, c'est-à-dire les régions qui ressemblent plus à l'Europe. Donc c'est le peuplement des États-Unis, du Canada, de l'Argentine, du Chili, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Voilà, vous avez ces mouvements migratoires. C'est une inversion. Mais évidemment, ça nous donne aujourd'hui des régions plus riches de ce fait. Voilà, bon, le temps. Dernière remarque et contradiction. Au XIXe siècle, mais je peux l'étendre au monde entier rapidement, au XIXe siècle, vous avez le moment des nationalités. Des sociétés qui vont se fractionner, s'identifier. Donc, on a de plus en plus d'États dans cette logique-là. Réciproquement, vous avez aussi la révolution industrielle. C'est-à-dire que les distances sont de plus en plus courtes. On pense au chemin de fer, au télégraphe, bien sûr, mais aussi penser à une certaine unification monétaire autour des talons or. Ça crée de l'ubiquité économique, une forme de mondialisation économique. Et c'est quelque chose qui est en fait contradictoire. Vous avez à la fois plus de sociétés et moins de distance. C'est-à-dire que ça exacerbe la contradiction initiale, une espèce des sociétés, singulier pluriel que j'avais évoqué, ce qu'on peut appeler l'international et le mondial. Voilà, le beau symbole, c'est Internet, aujourd'hui, la connexion maximale, évidemment, et inversement, ici, vous avez une guerre géopolitique avec la construction des murs, c'est-à-dire le fractionnement qui ne cesse de s'accentuer. Donc la contradiction ne cesse de s'exacerber, telle que je l'ai évoqué pour l'Angleterre du XIXe siècle. Or, historiquement, la seule façon qu'on a eue de créer une unité quelque part, d'accepter quelque chose de commun, c'est d'avoir un ennemi commun. Je crois que l'Europe face à Poutine est en train de le prouver, d'ailleurs. Mais si vous pensez à quelque chose dans un temps beaucoup plus long, l'unité, cet extraordinaire phénomène historique qui est l'unité chinoise sur 2200-2300 ans, avec des grands moments impériaux, bien sûr, il y a des moments de crise et de fractionnement, mais globalement, c'est un grand moment, c'est une création d'une nation, en réalité, mais qui fait 1,5 milliard de membres, eh bien, c'est parce qu'il y a eu, historiquement, dans le temps long, un ennemi commun qui était le monde des steppes. Et donc, il fallait s'en protéger. Ça suppose une grande muraille, ça suppose un décalage de l'autorité vers le nord, c'est la position très bizarre de Pékin en plein nord, ça suppose, évidemment, de la fiscalité, de la conscription, c'est-à-dire de l'État, de l'Empire, en l'occurrence, puisque c'est de grande taille. Donc, il faut un ennemi commun, et ça crée l'unité, comme pour l'Europe aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, ou heureusement, l'humanité n'a pas d'ennemi commun. Il n'y a pas de Martien. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, tout va être résolu quand Mars attaquera. Non. Donc, on peut multiplier les exemples hollywoodiens, c'est pas ça la question. Nous n'avons pas d'ennemis. Je l'ai écrit dans une citation d'un géographe, mais on a quand même sacrément des problèmes. Et donc, je peux vous montrer, évidemment, l'océan, par exemple, le réchauffement océanique. Pour moins désespérer les lycéens tout à l'heure, j'aurais montré le trou de la couche ozone, puisque là, on a à peu près maîtrisé l'affaire. Ce n'était pas trop difficile. Voilà, et ça pose un énorme problème pour être d'accord, c'est de savoir parler universel. De savoir, non seulement un langage, mais ça, ce n'est pas le problème, l'informatique est en train de le résoudre, d'avoir des traductions immédiates, mais d'avoir des concepts communs, des notions communes. Et j'ai terminé d'ailleurs Géohistoire sur une conclusion sur la question des droits de l'homme, la charte universelle des droits de l'homme, dont on conteste l'universalité, puisque elle commence, pratiquement tous les articles commencent par toute personne ou tout individu. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est mis en premier. Ça, c'est un choix social, européen, 19e, et donc il y a une charte africaine ou une charte asiatique des droits de l'homme qui est différente, qui essaye d'être concurrente. Donc, Comment penser l'universel ? J'aime bien me mettre sous le patronage de Diane, parce que c'est distrait en termes très simples, des choses qui me semblent importantes. Voilà, ben, merci, et je suis désolé de la couleur des images, qui n'était pas ce que, évidemment, c'était celle des planches de mes atlas.
Oui, c'est bon, mais il est compliqué.
Alors, merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant. Alors, je vous propose qu'on prenne 2-3 questions maximum ici, et qu'ensuite, on continue les échanges, parce qu'on voudrait célébrer avec vous les 10 ans de Philomania, et on vous offrira donc un pot à cette occasion. Mais Christian Grandalou ayant un train à prendre...
Hélas, oui, j'ai une réunion demain matin.
D'office à temps pour son train. Donc, on va juste prendre 2-3 questions ici. Alors, qui a une question ?
Moi, je voudrais savoir quelles questions vous ont posé les lycéens. Oui, effectivement, il y a eu des questions sur. Il y a eu beaucoup de questions, d'abord. Donc, je n'ai pas toute la liste absolument en tête. Il y a eu des questions relativement précises sur des moments particuliers. Mais effectivement, la question de l'unité, de la diversité, ça les a travaillés. Ça, c'est évident. Il y a eu une question très astucieuse là-dessus. Donc, sur la possibilité d'entente, de correction et de gestion. Parce que, bon, les lycéens étant plus jeunes que nous, excusez-moi, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi ici, mais enfin, pas. Nettement plus âgé que les lycéens. Effectivement, l'angoisse écologique est beaucoup plus forte. Ça, c'est très, très net.
Une autre question ?
Merci. Vous nous offrez ici, en fait, un regard vers le passé. On se tourne vers notre histoire. L'histoire de l'humanité, et je me demandais dans quelle mesure, surtout à la lumière de ce que vous avez dit sur la nécessité d'un, entre guillemets, ennemi commun, sur comment on pourrait mobiliser ça pour, cette fois-ci, regarder vers l'avenir, essayer de construire une sorte de géoprospective, de se dire, on parle beaucoup d'héritage en ce moment, de qu'est-ce qu'on laisse en héritage. Vous avez parlé, on a un héritage biologique avec la bipédie, un héritage technologique, un héritage culturel, mais aussi, la dernière diapo, elle le montre bien, un héritage sur ce qu'on a fait des paysages, ce qu'on a fait de la planète, ça aussi, ça fait partie de notre héritage. Et est-ce que, donc, à la lumière de ce que vous avez montré là, est-ce qu'on pourrait se dire que les propres changements qu'on a introduits pourraient être l'ennemi commun qui pourrait réunir l'humanité à l'avenir ?
Oui, je partage la réponse implicite dans votre question. Oui. J'ai fait deux remarques très simples, hein, parce que je trouve que souvent il y a des choses très évidentes qu'il faut constamment rappeler. Au début du bouquin, j'ai commencé par dire, oui, on est invasif, et j'ai mis en rapport le nombre de mètres carrés qu'occupe en moyenne un humain à différentes étapes. La distance moyenne, si on répartit de manière également les gens à la surface de la Terre, la distance moyenne entre eux, qui évidemment se réduit, mais tout ça reste finalement une densité assez faible. Donc l'un des constats aussi très simples qu'on peut faire, c'est que si vous prenez la production de céréales, pour faire simple, hein, puisqu'on mange avant tout des céréales, hein, la production de céréales, si vous additionnez ne serait-ce que les trois grandes céréales, blé, riz, maïs, ça représente au total 1 kg par personne et par jour. C'est-à-dire très largement de quoi nourrir l'ensemble de l'humanité. La production actuelle, hein, il n'y a pas besoin de fantasmer une production différente. Alors, certes, sa répartition n'est pas celle des humains. La plupart des pays ne peuvent pas être autosuffisants, hein, par exemple. Bon, mais inversement, il faut faire circuler les biens. Il y a une deuxième chose, plutôt à la fin du bouquin, c'est de rappeler combien un missile Patriot coûte et combien coûte le missile qu'il détruit. Vous avez une opération qui, globalement, aboutit à un résultat nul. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas de destruction que provoque le missile russe, mais ça peut être un autre. Hein. Et le missile Patriot ne sert qu'à détruire le missile russe. Bon, ça coûte plusieurs millions chacun. Alors, surtout le patriote, très compliqué. Hein, donc, c'est facile, si j'ose dire, de prendre simplement les budgets militaires et puis de voir qu'avec même la moitié des budgets militaires, on a les moyens largement de transformer. Voilà, c'est à nous de choisir. On a la possibilité. Mais effectivement, l'obstacle, là, c'est que nous sommes des sociétés. Si nous n'étions pas des sociétés, s'il y en avait une société mondiale, là, il n'y aurait pas besoin d'armée, sans doute besoin d'une police, mais pas d'une armée, c'est pas pareil. Le problème pourrait très largement être réglé. Donc il est facile de rêver. J'ai dit de rêver, bien sûr. Maintenant, effectivement, le fonctionnement par société fractionnée, différente, c'est épouvantable.
Une dernière question collective. Vous voulez passer en photo tout de suite? Eh bien, je vous propose de changer de salle. Auparavant, si vous pouvez nous aider, vous pouvez nous
aider. On vous en sort pas, madame.
Ah.
Marche pas.
Donc, je vous propose de passer dans la salle à côté pour le pot. Si on parlait à la, vous pouvez nous donner un tout petit coup de main pour enfiler les chaises. Ça sera super sympa.